Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce café littéraire où nous allons parler de voyage, de voyageurs et sur la piste du passé ou du futur. Alors, finalement, ce dont je voudrais parler avec nos invités aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que le voyage. C'est le voyage. Le voyage, c'est un peu aller à la rencontre de lieux, d'hommes, de cultures, que ce soit de la musique, de la littérature, les habitats, les habitudes. En fait, Pour moi, le voyage, c'est la rencontre de l'autre. Alors, je pense que c'est un petit peu ce qu'on va essayer de décliner avec nos invités aujourd'hui. Alors, les invités que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord Yos, qui nous vient de Cuba. Il est en voyage chez nous, donc peut-être que lui, il vient. Nous sommes les autres pour Yos. C'est peut-être ça ce qui est intéressant de discuter avec lui. Dans son œuvre, il y a un certain regard, critique et humoristique sur le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel lui, il vit à Cuba. À côté, nous avons Eric Holstein. Eric Holstein, c'est un auteur qui a écrit un certain nombre de nouvelles qui ont été publiées dans divers endroits. Et il est là plus particulièrement pour nous parler de son livre D'or et d'émeraude, qui est un voyage en lui-même, un double voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'Amérique du Sud. Nous avons Roger Faligo, qui est journaliste et écrivain, qui se définit même comme celte, et qui a écrit de nombreux récits sur l'histoire, en particulier l'histoire du XXe siècle, surtout sur l'histoire des services secrets, qui a aussi fait de nombreux voyages, et qui a écrit un livre sur les enfants au fil du temps, qui s'appelle « Le peuple des enfants ». À mes côtés, il y a aussi Olivier Blesse, qui est auteur de plus d'une quinzaine de livres, de récits de voyage, de romans, d'essais, et qui s'est lancé plus particulièrement dans l'imaginaire avec Canis, un récit d'aventure, un planète opéra. Il était déjà dans l'imaginaire avant. Et David Camus, donc, qui est auteur-réalisateur de films historiques et culturels, directeur de collection, et qui a écrit un roman qui s'appelle Le roman de la croix, qui parle des croisades. Voilà. Donc nous avons tous ces gens-là autour de nous, et nous allons essayer de nous faire un long voyage à travers le temps, l'espace, dans le passé et dans le futur. Alors, Yos, toi qui viens du plus loin, tu es venu vers nous, c'est nous qui sommes les autres pour toi, finalement.
Fue justamente Jean-Paul Sartre, un francés, el que dijo, el infierno son los otros. O sea, de alguna manera me estás preguntando si ustedes son el infierno para mí. Desde luego que no. Los otros no solo son el infierno, a veces también son el paraíso.
Alors en fait, justement, je me faisais une réflexion, et c'est un Français qui a écrit « L'enfer, c'est les autres ». Alors je me posais la question de savoir si, comme vous êtes les autres, est-ce que vous êtes l'enfer pour moi ? Mais en fait, pas vraiment, parce que jusqu'à présent, c'est plutôt le paradis.
Justamente hoy, à la hora d'almuerzo, estaba conversando con unos autores franceses que conocí hoy, y te imaginarás lo difícil que es conversar con franceses en una mezcla de francés e inglés. Para mí. Y yo les decía que para alguien que viene de Cuba, venir a Europa, a Francia, es un viaje, pero es sobre todo un viaje en el tiempo. Cada vez que yo vengo a Europa, creo más en la ciencia ficción, porque me doy cuenta que Europa es, de alguna manera, uno de los futuros posibles que nos espera a nosotros, los del tercer mundo, los de Latinoamérica.
En fait, ce matin, au petit déjeuner, j'étais en train de discuter avec des auteurs français. Alors, on essayait de causer dans un espèce de petit mélange de français et d'anglais. Et je leur disais que pour un auteur cubain, venir en France, ça tient un petit peu de la science-fiction. Parce que pour un Cubain, finalement, l'Europe, c'est un petit peu le futur de ce que pourrait être Cuba, qui est un pays sous-développé Et donc ça a un petit côté comme ça futuriste, très SF.
Quiero decir que hace unos días en Cuba, en una entrevista para televisión, me preguntaban por qué yo había empezado a escribir ciencia ficción. Y una de las razones que di es que me gustaba mucho viajar. Y un día descubrí que todos los lugares a los que pudiera viajar ya habían ido otros. Y que los únicos viajes que quedaban eran los de la Tierra de la Imaginación. O para decirlo al estilo de Star Trek, Space, The Last Frontier.
La semaine dernière, j'étais à la télévision cubaine et donc j'étais interviewée. Et on m'a posé la question qu'on me pose souvent, pourquoi avez-vous choisi d'écrire de la SF ? Et donc moi j'ai dit, j'ai choisi d'écrire de la SF parce que j'aime voyager. Alors comme à l'heure actuelle, sur la Terre, on a à peu près voyagé à peu près partout et on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, et bien finalement, il restait à voyager dans l'imaginaire. Et comme dit si bien la série Star Trek, donc vers la frontière et au-delà.
Mais malgré tout, si, au moins dans la partie de ce que vous avez écrit qui est arrivée jusqu'à nous en France... Vous êtes effectivement parti en voyage, mais presque pour vous retourner vers votre pays et le regarder avec le regard de l'autre. C'est un peu cela.
Bueno, los cubanos siempre decimos que un verdadero viaje incluye el regreso, que un viaje sin regreso es una emigración. Y creo que los autores de ciencia ficción sabemos un poco de eso, porque nuestros viajes imaginarios siempre son viajes en los que se va al futuro, pero se regresa al presente después de haber aprendido algo en el futuro. Y ese es el sentido de la ciencia ficción.
Pour les Cubains, tous les Cubains disent et savent que quand il y a voyage, il y a forcément retour. Sinon, c'est l'émigration. C'est plus un voyage. Et pour l'auteur de science-fiction, c'est un peu la même chose. L'auteur de science-fiction cubain, il part en voyage, il crée des choses, mais il sait qu'il y aura forcément un retour au présent. Et finalement, le retour, c'est peut-être ça aussi, la science-fiction, c'est d'être capable d'avoir fait le voyage, d'avoir appris quelque chose et de revenir ensuite au présent.
Bien. Et alors, des fois, le voyage de retour ne revient pas exactement au présent. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans l'œuvre d'Eric Holstein. Dans D'or et d'émeraude, qui se passe dans un pays relativement proche, finalement, de Cuba, qui est la Colombie, et où le voyage que nous faisons, c'est un voyage d'Européens qui part vers la Colombie. Il y a une première partie époustouflante sur la Colombie actuelle, mais il y a aussi un voyage qui, en boucle, revient vers un présent qui n'est pas le nôtre.
En fait, le voyageur, il voyage pour voir d'autres choses, mais tout voyage est un peu un voyage à l'intérieur de soi-même aussi. Quoi. On part chercher d'autres choses, mais on part se chercher soi.
Et est-ce qu'on ne change pas aussi ce là où l'on voyage ?
Vaste question. C'est Schrödinger et sa... Et sa question, mais ce qui est à la base de l'écriture de D'or et d'émeraude, donc c'est deux voyages que j'ai fait en Colombie dans des circonstances un peu particulières, et j'y allais aussi avec cette envie de rapporter quelque chose. C'était très étrange, c'était la première fois que ça me faisait ça. Je voulais engranger, emmagasiner des impressions pour porter témoignage. Mais je ne suis pas hispanophone, donc je l'ai fait par le biais de photos, des photos qu'on retrouve décrites dans le livre, et c'était... Il y a presque un côté un peu voleur dans le voyageur. Quoi. On vole des impressions, on vole des sensations, et c'est encore plus vrai quand on photographie, où on a... Souvent, je me faisais l'impression d'être un voleur d'images. Je pensais à ces tribus d'Indiens qui ne veulent pas qu'on les photographie parce qu'ils ont peur qu'on vole leur âme. C'est un peu ça. Dans sa quête de soi, on se nourrit de ce qu'on vole à l'autre.
Alors, une autre dimension de ce livre, c'est le voyage dans le temps.
Qui pour le coup est un voyage statique, puisque c'est les trois parties du livre se passent exactement au même endroit. Une dans le présent, une dans le passé, et une dans un présent alternatif. Et c'est aussi une manière d'explorer les possibles. Voyager, c'est explorer les possibles, c'est comment vivent les gens, comment ils abordent à leur manière des problèmes que nous, on peut avoir. De la même manière qu'apprendre une autre langue, c'est apprendre une autre manière de penser. Voyager, c'est apprendre une autre manière de penser. Et dans le temps, c'est pareil. Voilà, c'est presque la mise en pratique d'une autre manière de penser, d'une autre manière de voir. C'est vraiment un jeu. C'est un des luxes qu'offrent les littératures de l'imaginaire, qu'on peut se permettre de mettre en pratique cette quête de soi-même.
Alors effectivement, c'est au travers d'Andorre et d'Emeraude, il y a beaucoup d'imaginaire. On va chercher un autre futur au passé, donc un futur antérieur. Mais on peut aussi se rapprocher de la réalité historique et de parler, par exemple, des croisades, d'éléments relativement réels et un peu brodés dessus. N'est-ce pas ?
Non ? J'ai pas compris la question.
C'est pas une question. C'est on parlait un peu des croisades, de vos livres.
Pour parler du roman de la Croix. Oui, c'est plusieurs voyages, en fait, si vous voulez. Déjà, les livres offrent une possibilité de voyage dans la mesure où il n'y a pas d'ordre. Donc, chaque lecteur peut aborder la série ou le cycle, un peu comme il le veut, et suivre son propre itinéraire, bâtir son propre itinéraire à travers les différents romans que je propose. Et ensuite, pour revenir à la notion de voyage, c'est valable aussi avec le voyage dans le temps, et pourquoi pas à l'époque des croisades, puisqu'il s'agit presque d'une époque, mais aussi d'un monde, d'une façon de penser très différente de la nôtre. Ce qui est important, je crois, c'est d'essayer de d'adopter, en tout cas d'essayer d'accéder au point de vue de l'autre et le représenter, essayer d'avoir une vision multiple des événements, de l'histoire, de la morale, de la vie, voilà. Et se forger sa propre opinion en la confrontant à celle au pluriel des autres. Oh.
Finalement, c'est nourrir la mémoire actuelle de l'humanité.
Alors, une chose très claire, c'est vrai que pour écrire ces romans, je me suis beaucoup documenté sur l'histoire. Et pour moi, ça voulait dire aussi une chose absolument évidente. Se documenter sur l'histoire, ce n'est pas seulement les faits historiques, c'est aussi les récits qui les accompagnent, les fictions qui les accompagnent. Donc, ça supposait regarder les romans. Ça voulait dire aussi regarder Chrétien de Troyes. Ça voulait dire aussi regarder tous les romans écrits à cette époque. Je voulais, si vous voulez, non pas faire œuvre d'historien. Mon ambition n'est pas du tout de restituer, de recréer l'époque des croisades, mais c'est d'essayer de recréer le ou les regards que les gens de cette époque portaient sur leur propre monde. Pas une chose toute simple, c'est que ce qui va être légende pour nous, ne l'est pas pour les contemporains. Si on prend par exemple le journal de Marco Polo, Marco Polo va parler de magie, d'assiettes qui volent au-dessus des tables. Ce que nous on appellera légende, pour lui c'est du fait historique, si vous voulez. Donc c'est intéressant de comparer ces choses-là et de restituer le regard. C'est pour ça que vraiment ces ouvrages mélangent histoire et légende. Et je les ai voulu tels quels.
Alors, on peut aller aussi un peu moins loin dans le passé, se pencher sur le temps qui vient juste de s'écouler, le siècle dernier, au travers de tout un tas de récits qui, pour nous, sont parfois des légendes et pourtant recouvrent des réalités qui sont cachées.
J'ai l'impression que vous me faites parler d'un livre que j'ai écrit il y a 6 ans. C'est pas du tout celui que je présente aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas ici pour parler des voyages.
Mais non, mais il y a aussi j'allais venir après.
Non, mais vous me parlez des Peuple des enfants. C'est un livre que j'ai publié il y a longtemps. Et ce que j'ai publié, c'est Les 7 portes du monde. D'accord. C'est l'histoire du premier homme qui a fait le tour du monde par les continents. Voilà. Et de ce fait, c'est une histoire réelle. au départ. Il s'appelait Pierre Malherbe et c'était un Breton qui, sous Henri IV, pendant 5000 jours, pendant 15 ans, a fait le tour du monde par les continents en partant de Bretagne, d'Andalousie. Il est allé en Amérique latine, il est allé à l'île de la Couve, comme on disait à l'époque, au XVIe siècle, c'est-à-dire Cuba. Il est allé ensuite en Asie et il est resté 5 ans chez le grand mogol Akbar, du plus grand empire, à part celui d'Espagne, de Philippe II, mais le plus grand empire d'un seul tenant, à la cour du Shah Abbas Ier. Et puis pour finir, il est retourné en Bretagne et il est retourné un jour au Louvre, voir le roi Henri IV. Enfin, il a d'abord vu son conseiller géographique. Alors tout ça, c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai? Parce qu'il a raconté son histoire à ce conseiller, Pierre Bergeron. Et c'est ce qui m'a servi au départ au livre. Alors au départ, c'est-à-dire un recueil de 60 feuillets en vieux François qui disait « Voilà le tour du monde que j'ai fait ». Et évidemment, là, pour le coup, j'étais confronté au fait de savoir si c'était un mensonge, puisque c'est la première fois, encore une fois, avant lui, il y a Magellan qui a fait en bateau, mais il n'est jamais revenu de son tour du monde. Et puis, il y avait sinon Francis Drake, qui, corsaire d'Elisabeth, allait attaquer les flottes de l'or en Espagne, au Panama, à Manille, etc. Et c'est donc à partir de cette histoire de ce voyageur, Pierre Malherbe, que j'ai, par contre, vu qu'il avait 700 feuillets, ses mémoires, mais ils ont été perdus. Et donc, j'ai décidé de les écrire à la première personne et de refaire ce voyage. Et avant de faire ce roman, donc j'ai refait le voyage partout où il est resté longtemps, c'est-à-dire dans ces pays.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez quand même vous-même voyagé à travers le monde.
Oui, ben j'ai refait là où il est resté longtemps. Quand il était passé 15 jours en Honduras, ça ne valait pas le coup parce qu'il n'avait vraisemblablement pas laissé de traces. Par contre, j'ai retrouvé des traces à Lima, à Potosi, à 4300 mètres, la fameuse montagne d'argent, la plus haute ville au monde. Il y avait 100 000 habitants, 25 000 Espagnols. Le reste, c'était des esclaves incas et des Congolais et des Sénégalais qui mouraient parce qu'il faisait trop froid dans les mines, bon, etc. Et puis là, il y avait encore des archives qui montraient qu'à un moment, il a été poursuivi par la Sainte Inquisition du Mexique parce qu'il a eu un problème avec le vice-roi. Il avait trouvé une mine d'argent qui lui a été préemptée. Il est parti. Le premier voyage, l'expédition de 95, c'est un voyage dont j'ai retrouvé trace. Les archives sont en Australie, à Melbourne. Et c'est là, c'est par exemple le voyage qui a découvert les Marquises et qui a baptisé les Marquises. Et puis, il a continué jusqu'à Manille. C'était encore l'Empire espagnol, naturellement. Il était en Chine. Et puis, voilà, il y a des tas d'aventures. Mais je vais laisser mes collègues continuer de parler. Mais donc, c'est une histoire vraie au départ. Et je suis très content parce que Pierre Malherbe était complètement inconnu depuis 5 siècles. Et donc, avec ses archives, et je peux vous assurer que quand nous avons lancé le livre à Vitré, qui est une ville à la frontière de la France et de la Bretagne, qui est une ville sur les marches de Bretagne, et bien, en novembre, on a reconstitué un peu son retour à Vitré. On a fait l'exposition avec son certificat de baptême du 18 février 1570 que j'ai retrouvé, des documents, une reconnaissance de dette en espagnol avant qu'il parte vers le Mexique, vers Veracruz, à partir de l'Andalousie, de Séville, etc. Donc c'était. Alors tout le problème, je dirais que c'est un peu ce que disait mon confrère, là, c'est d'après de prendre certaines libertés, avec, parce qu'on n'a pas tous les éléments, avec évidemment la réalité, pour que ça soit vraiment un roman et que vous ayez plaisir, j'espère, à le lire.
Bien, merci. Un endroit qui est autre en lui-même, c'est la mer. Et donc, vous, votre livre parle de mer.
Oui, on m'entend là, oui. En fait, c'est une particularité. Ce livre, je suis un petit peu pièce rapportée ou intrus ici parce que j'ai publié un livre d'anticipation chez Folio SF, mais avant 19 romans, surtout chez Gallimard, qui sont des romans contemporains ou historiques qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait. Et je m'aperçois, en fait, sur les stands que... je connais peu d'auteurs et peu de lecteurs me connaissent, donc je suis voyageur à double titre. En fait, la mer, oui, mais en réalité, je suis plutôt quelqu'un de la terre. J'ai entamé l'année dernière, pour vous parler des voyages concrets et appliqués, un tour du monde à pied, par étapes, sinon ça serait une coïncidence formidable que je me trouve ici. C'est-à-dire que chaque année, je marche un mois. Pourquoi seulement un mois? Non pas par paresse, mais parce que j'ai une petite fille et je ne veux pas m'en éloigner trop longtemps. Donc je marche chaque année un mois et je reprends l'année suivante à l'endroit où je me suis arrêté. Donc je suis parti de Pamplonne près d'Albi l'année dernière et je serai en Autriche à peu près fin juillet. Avec chaque fois, comme ça je progresse. Si je continue au même rythme, je n'aurai pas terminé au moment de ma mort, mais je compte bien accélérer justement quand ma fille sera grande et quand elle sera très contente de me voir m'éloigner. Ça c'est pour les voyages appliqués, qui s'ajoutent à beaucoup d'autres, puisque j'ai fait quantité de résidences d'écrivains à l'étranger, de séjours assez longs, dans la perspective habituellement de documenter des livres. Il y avait un livre par exemple sur le Brésil qui m'a conduit à séjourner 3 mois là-bas, sur Madagascar, j'ai fait un feuilleton radio pour France Inter, etc., etc. Le voyage, pour moi, c'est avant tout une distance prise avec le réel. Donc vous pouvez la développer dans la dimension que vous voulez. Ça peut être dans le temps, et c'est ce qui m'a conduit à écrire des romans historiques. Ça peut être dans l'espace, c'est ce qui m'a conduit aussi à situer des histoires dans des latitudes qui ne sont pas les nôtres. Et ça peut être enfin dans le sens, c'est-à-dire imaginer des récits qui n'ont pas de point de conjonction avec la réalité connue. Et en réalité, cette expérience du voyage, elle est relativement facile à faire, non seulement parce que le voyage est devenu, pour quand même une grande majorité des citoyens de pays développés, relativement abordable. On voyage bien sûr beaucoup plus facilement, beaucoup plus loin qu'autrefois. Mais aussi parce que, pour vous donner un exemple, dans le cadre de ce tour du monde à pied, j'ai fait une petite jonction Lyon-Albertville il y a une quinzaine de jours. Et j'estime avoir vécu des petites aventures dignes d'un safari en Tanzanie, quoi. Donc le voyage, c'est simplement créer ce minuscule décalage, cette perturbation du quotidien qui va vous amener à vous poser des questions qui généralement sont émoussées dans la vie qu'on mène tous les jours. C'est-à-dire, où vais-je dormir ce soir? Puis-je faire confiance à cette personne qui me propose telle ou telle chose? Où vais-je manger, etc. C'est la question qu'à peu près n'importe quel touriste qui choisit le sac à dos se pose dès qu'il a quitté nos frontières. Et ce sont des questions très saines, puisqu'elles vous conduisent justement à vivre une expérience, à mon avis, plus intense de vous-même. Là-dessus, ce roman-là, Canis, évoque effectivement une planète entièrement liquide où vivent des poissons géants de 180 km de long, mais c'était surtout un clin d'œil à un ami pêcheur qui m'a accompagné dans une résidence d'écrivain en Nouvelle-Zélande de 6 mois, durant laquelle, lui, il a pêché 5 mois et demi. Et moi, je ne le pêchais pas parce que j'ai installé une sorte de statut de valet de pêche ou de témoin de pêche. J'accompagne les pêcheurs pour les regarder. Mais en tout cas, je voulais faire un livre sur sa passion parce que j'ai rarement vu des gens aussi passionnés et entiers que les pêcheurs. Voilà la petite histoire de ce livre.
Oui, mais au-delà de simplement parler de la pêche, dans Canis, on rencontre quand même toute une culture que vous avez construite, fabriquée, nourrie certainement de vos rencontres au travers de notre monde à nous.
Oui, nourrie aussi de mes lectures, et principalement d'une lecture qui est citée en quatrième de couverture du livre, et c'est peut-être un tort, qui est celle de Jack Vance, puisque adolescent, j'étais un grand, grand lecteur de Jack Vance, et l'aspect ethnographique de ses récits, vouloir comme ça saisir des civilisations dans leur entièreté, décrire les us, les coutumes, les façons d'être des gens, d'une façon à la fois efficace et expressive, j'aimais beaucoup ça, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai réussi. Hier, j'ai eu une expérience un petit peu traumatique qui est drôle. Alors, c'est une sorte de catharsis, je vais vous la raconter. Je revenais de la très intéressante conférence de Yos et consorts, parce que je m'adresse beaucoup à l'astronomie. Donc, je vous ai écouté hier et j'étais monté à pied à l'observatoire, mais il était un peu tard, je voulais descendre en voiture. Donc, les premières personnes qui sont sorties, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me conduire en bas? Voilà. Et ils m'ont conduit. Et la dame a la gentillesse de s'asseoir à l'arrière parce que j'avais des grandes jambes. Et elle me demande quel est votre nom, parce qu'elle avait réagi quand j'avais dit je suis un tel. Alors je lui appelle mon nom. Et elle me dit, c'est vous qui avez écrit Canis, tel livre? Oui. Et elle me dit, j'ai détesté ce livre. Et ensuite, parce qu'elle s'occupe d'un blog de SF, alors je lui dis, bah oui, c'était une sorte d'hommage parce que je lis beaucoup de SF, mais je prétends pas être un auteur SF. Et elle m'a expliqué en long et là, en large, pendant les 15 minutes de voiture, pourquoi effectivement, selon elle, ça marchait pas et tout ça. Mais je suis vite descendu des étoiles au sous-sol, quoi.
Alors, effectivement, c'est ça. Donc, construire une culture ou observer l'impact des cultures et la manière dont une culture est en train de... culture un peu figée, qui est la vôtre, Yos, par exemple, est perturbée, secouée par le reste du monde. Et c'est un petit peu ce que vous essayez de montrer dans vos livres.
Curiosamente, jamás había pensado en eso que me dices. Creo que una de las cosas interesantes de ser escritor es que a veces uno se encuentra con que ciertos lectores y críticos hacen lecturas completamente inesperadas de lo que uno pensó. Si tuviera que responder a eso, te pediría 3 días de plazo para pensarlo bien.
Et j'avais jamais envisagé en fait mon travail comme ça. Et ce qui est très très intéressant justement quand on côtoie des gens, des lecteurs ou des critiques, c'est qu'ils ont parfois une lecture autre du travail que l'on a pu faire, un autre regard, avec quelquefois ils décèlent des choses qu'on n'avait pas vues soi-même. Mais si je devais répondre à cette question-là, il me faudrait au moins 3 jours de réflexion avant d'être capable de dire quelque chose.
Pero creo que una de las circunstancias más curiosas de todo viaje es que cuando uno ha pasado de país en país viendo cambios constantes y regresa a tu país, te da la impresión de que el mundo donde viviste toda tu infancia, tu juventud, está como fijo en el tiempo y que el resto del mundo se mueve. Pero en realidad hay una circunstancia muy curiosa. Es que tú has cambiado, es que el lugar al que tú regresas ya no es el mismo porque tú no eres el mismo.
Mais on peut quand même dire une chose, c'est que quand on voyage et qu'on passe au sein d'un certain nombre de pays et que l'on voit des changements, que l'on voit d'autres choses, il est vrai que quand on rentre à la maison, on a l'impression que les choses sont restées figées. Que les choses sont restées figées dans le passé et qu'elles sont différentes. Mais finalement, en réalité, c'est pas. On ne voit plus les choses pareilles. Et on se dit, bah oui, c'est parce que c'était comme ça avant. Et en réalité, au fil des voyages, on a changé. Et donc, ce n'est pas le passé qui est resté figé ou qui n'a pas changé. C'est nous qui avons changé et qui n'avons plus le même regard sur ce que nous avions laissé quand nous y rentrons.
En los últimos 30 años, Cuba se ha convertido en un país de emigrantes. Y gracias a Internet y a Facebook, que aunque difícilmente los cubanos a veces tenemos acceso a él desde Cuba, yo me mantengo en contacto con muchos amigos que hace años se fueron y constantemente me hacen preguntas sobre sitios y sobre circunstancias de Cuba. Y cuando les digo, mira, eso ya no existe, me dicen, pero ¿cómo? Si en Cuba no cambia nada. Y yo les digo, es que el país que dejas atrás no es una entidad fija en el tiempo. Incluso los pequeños movimientos te parecen muy grandes a ti porque son movimientos que para ti tienen lugar en tu pasado. Es como cuando el país que dejaste atrás cambia, es como si alguien cambiara tu pasado. Y es una sensación bastante incómoda.
En fait, Cuba, si on y pense, c'est un pays d'émigrants. À Cuba, fort heureusement, on a peu d'accès, mais on arrive de temps en temps à avoir accès à Internet ou à Facebook. Et on a des moyens quand même de rester en contact. Donc moi, personnellement, je suis restée en contact avec un tas d'amis qui sont partis depuis des années et qui vivent à l'étranger. Et très souvent, ces amis me demandent des nouvelles d'endroits, de lieux... Et quand je leur réponds, mais ça a fermé ou ça n'existe plus, ben non, cet endroit-là, ça fait longtemps que... On me dit, mais non, attends, c'est pas possible. Enfin, Cuba, il n'y a rien qui change à Cuba, c'est pas possible. Et donc, je réponds toujours, ben oui, mais tu sais, il faut pas... Parce que tu es parti, tu as l'impression de penser que ce que tu as laissé ne va pas bouger. Mais en réalité, même si les changements sont infimes ou autres, les choses changent, les choses évoluent. Et donc se dire que quand on part, les choses qu'on a laissées vont évoluer, c'est finalement quelque chose un petit peu inconfortable.
Donc le voyageur, en partant, il emmène une mémoire qui elle-même est figée.
Es cierto, disculpe. Creo que todo viajero se lleva una fotografía de su país. Pero lo que no piensa es que cuando él se va, los amigos, los lugares, el país sigue viviendo y se va moviendo hacia otro lugar. Y cuando regresa, se da cuenta de que todo ese movimiento tuvo lugar sin él. O sea, la nostalgia no es solo una cuestión de lugar, lamentablemente también es una cuestión de tiempo. Y el tiempo no se puede recuperar nunca.
En fait, effectivement, le voyageur, quand il part, il emporte avec lui une photographie figée de ce qu'il a laissé. Et en fait, il ne réalise pas que pendant qu'il est parti, les choses et les lieux vont changer, vont évoluer et vont le faire sans lui. Si bien que finalement, la nostalgie, c'est à la fois une question de temps, une question de lieu que l'on croyait figé et qui a bougé, mais c'est aussi une question de temps et d'un temps qui ne se rattrape pas.
muchos cubanos sueñan con irse de Cuba y piensan que será como el final de su sueño, que es como llegar al objetivo de su vida. Y se descubren con gran impresión que llegar a otro país no es el final de algo, sino que es el principio de otra cosa, que tienen que comenzar de cero. Pero en realidad nunca pueden comenzar de cero porque de alguna manera se llevan a su país, o lo que cada uno se lleva un pedazo de su país en el bolsillo. Y lo peor es que ni siquiera ese pedazo está seguro, porque va cambiando. El país verdadero no es el recuerdo de ninguno de sus ciudadanos. Es diferente.
De nombreux Cubains, en fait, rêvent de partir à l'étranger. Et donc, partir à l'étranger, c'est le but ultime. Et donc, lorsqu'ils y parviennent, ils sont persuadés qu'ils ont réalisé leur rêve et qu'une fois là, ils vont pouvoir démarrer de zéro. Mais en fait, ils ne réalisent pas que quand ils partent, ils emmènent un morceau de leur pays avec eux et qu'ils ne peuvent pas repartir de zéro puisqu'ils ont déjà un passé et qu'en plus, ce passé qui est, qu'ils croient figé, finalement, va évoluer, va bouger sans eux. Et c'est finalement très difficile d'arriver à repartir vers autre chose quand on a complètement quitté son pays.
Alors, c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de Doré d'Emeraude, puisque la personne qui part dans le passé, elle essaye de le changer, mais elle essaye d'apporter, effectivement, lui, son passé à lui dans le passé, c'est-à-dire son histoire dans le passé, mais malgré tout, elle est rattrapée par le présent. Le présent alternatif est rattrapé par notre réalité.
En fait, après, voilà, c'est un peu la quadrature du cercle qu'il y a dans tous les voyages dans le temps, quoi. C'est il essaie de modifier le passé avec ce qu'il amène lui de son présent. C'est exactement c'est l'équivalent parfait de ce que disait Yos sur le quand on voyage, quand on part de quelque part, on emmène un peu de du pays d'où on vient, et voilà, lui, il essaye de remodeler un passé que finalement lui il a pas subi, avec ce qu'il amène de notre présent. Et effectivement, voilà, notre réalité finit par rattraper la réalité alternative du livre, mais voilà, il y a pas mal de points de concordance parce qu'au final, ça tient à ma vision de l'homme et de la nature humaine, mais voilà, même cause, mêmes effets. Enfin, il y a des points de divergence certes, mais notre cupidité reste la même, notre appât du gain reste le même, notre égoïsme fondamental reste le même, l'instinct individualiste de l'homme, du tout pour sa gueule, reste le même. Et au final, on finit par arriver à des situations qui sont pas similaires, mais qui pourraient nous sembler familières, oui.
Bien, merci. Et alors, si on repart sur le voyage autour du monde, effectivement, lorsqu'il revient, votre personnage à Paris, il a aussi, comme ce que disait un peu Yos, une photographie ancienne de la France, et il a été en même temps changé lui aussi par tout le voyage qu'il a fait.
D'abord, il ne connaissait pas Paris. Il avait été à Lima, il a été à Canton, à Agra. Et puis, il y a une ville de 300 000 habitants. Quand il arrive, il voit 3 000 personnes qui sont toutes nues dans la Seine parce que c'est l'été le plus chaud en 1608. Et il découvre cette ville. Bon, et évidemment, ce qui est important, c'est qu'on le voit parce qu'il a laissé des traces quand même en disant « Moi, j'aimerais faire connaître à mes contemporains le monde tel qu'il est. » Mais en fait, plus il avance, quand il est chez le grand mogol Akbar en Inde, disons, à Agra, il va dire, je viens de Chine, il y a des gens, c'est les Chinois, ils sont jaunes, même les femmes sont jaunes. Bon, ça, les Mongols, ils connaissaient, parce qu'il y avait des marchands chinois. Par contre, quand il leur dit, mais il y a aussi, de l'autre côté des mers, des gens qu'on appelle les Incas, etc., etc., c'est quelque chose, ça fait qu'il devient une sorte de Sherazade, si vous voulez, ça peut les mille et une nuits. À chaque fois, il est bien accueilli, parce qu'il raconte aussi des choses qui sont passées derrière lui. Il emporte des photos, comme a dit notre ami cubain tout à l'heure, des instantanés, en quelque sorte, des voyages. Mais en même temps, il a un certain nombre de projets. Un, c'est de retourner effectivement en Bretagne, ça c'est aussi sûr. Mais le projet principal, c'est au départ, il avait, on a parlé de commerce un petit peu, enfin d'un intérêt économique et autres, il avait pour but de contourner un embargo pour sa famille, pour la confrérie des marchands d'outre-mer de Bretagne qui voulait vendre du chanvre à travers le monde entier. Et c'était interdit sous peine de mort par le roi d'Espagne, Philippe II, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de vendre si on n'était pas citoyen espagnol. Donc il a été envoyé tout petit en Espagne, a été formé pendant 10 ans, devenu, apprenant le castillan, apprenant à se battre, c'est un dueliste émérite, il a été formé par le plus grand maître d'armes de la fin de la Renaissance espagnole, et puis il va partir sous un faux nom, il s'appelle Pedro Malherbe, il s'appelle plus Pierre Malherbe, et il va partir... disons, pour aider en quelque sorte sa famille, les marchands d'outre-mer, etc. Mais malheureusement, il a beaucoup d'ennuis et à partir de là, il est obligé d'aller tout le temps d'avancer. Donc il a un problème, c'est qu'il veut retourner. Il s'aperçoit que oui, comme on l'a dit, la terre est ronde comme une citrouille, mais en même temps, il est poussé par beaucoup d'ennuis qui sont derrière lui. Il avance et puis, en même temps, il est passionné. Je prends un seul exemple parce que je ne veux pas être trop long, mais quand il arrive chez Akbar, le grand mogol, il arrive chez un type qui est un musulman, sunnite, et il est en train de créer la meilleure religion au monde, faite de tout ce qu'il y a de meilleur dans toutes les autres religions. Alors il a créé une agora, comme ici, un temple, avec des zoroastriens, des sunnites, des chiites. Il y a un jésuite, c'est le neveu de Saint-François-Xavier. Il y a des gens, des chiites de Golconde, parce qu'il s'intéresse beaucoup aux mines d'argent, de diamants, etc. Et là, tout le monde va essayer de dire bah, qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Et lui, Akbar, il va moderniser sa religion en disant bah, « Déjà, j'interdis à partir de maintenant pour les musulmans ». L'excision, la circoncision. Par contre, comme il veut toujours équilibrer, parce qu'il y a beaucoup de population dans l'Empire moghol, pour les hindous, à partir d'aujourd'hui, quand un homme mourra, sa femme ne sera pas obligée de brûler, la veuve ne sera pas obligée de brûler sur ce qu'on voit dans le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, naturellement. Donc, voilà. Et en quelque sorte, il modifie un petit peu aussi... je dirais le milieu dans lequel il est, en apportant des connaissances de ce qu'il a vu, mais en même temps, évidemment, il est constamment assoiffé par des connaissances nouvelles qu'il essaiera de rapporter. Et pour finir, il proposera à Henri IV de créer la Compagnie des Indes. Comme vous le savez, c'est beaucoup plus tardif. Il voulait faire la Compagnie des Indes avec Saint-Malo et Brest comme point d'attache, mais le projet, eh ben, Henri IV lui dira je dirais oui ou non après le sacre de la reine. Et comme vous le savez, après le sacre, c'est le massacre et le roi est tué par Ravaillac le lendemain. Donc mon personnage, à nouveau, repart à la dérive.
Donc, effectivement, ramasser, transférer, enfin un peu Scheherazade, mais d'un autre côté aussi, apporter notre propre connaissance. Notre propre vie, notre francophonie, par exemple, la transmettre aux autres peuples, non ? C'est pas un peu ce que vous essayez de faire ?
Je pense que vous faites allusion à un livre que j'ai publié l'année dernière qui s'appelle Voyage en francophonie aux éditions Autrement, où effectivement je me suis intéressé à... Le sous-titre est assez éloquent, une langue autour du monde, parce que c'est... C'est avec l'anglais la seule langue, le français, qui est présente sur les 5 continents, bon, qui est en 9e position en termes de nombre de locuteurs, mais qui continue d'avoir une vitalité, une richesse assez grande malgré les cris de Cassandre qu'on entend ici et là. La francophonie en soi ne paraît pas une cause majeure, dans le sens, il y a toujours le risque lorsqu'on défend et on illustre une langue de devenir prosélyte de cette langue et de déclarer comme Rivarol qu'elle est supérieure à d'autres, et ensuite de classer les langues comme ça a été fait au cours des siècles pour dire que l'allemand est bon à parler, est bon pour parler à son cheval, l'italien pour parler aux femmes, le français pour parler aux philosophes, etc. Il y a toujours ce risque-là de déraper parce qu'il y a quelque chose dans l'esprit humain qui veut simplifier, qui veut catégoriser et aussi qui cherche un peu la bagarre, quoi. Donc la francophonie a aussi cet aspect-là. Il y a des gens qui sont des héros à ULTS, des chevaliers de la langue et qui continuent de vouloir, comme autrefois, comme dans les siècles passés, l'imposer au nom d'une supposée supériorité. Moi je ne suis pas dans cette optique-là. Mais ce que je crois, c'est qu'il existe des langues qui, du fait de leur histoire, heureuse ou malheureuse, se sont trouvées partagées par un très grand nombre de nations et même parfois de civilisations, et qu'à ce titre, elles sont véhiculaires, c'est-à-dire qu'elles permettent de véhiculer d'une mer à l'autre, d'un pays à l'autre, entre gens très différents, des idées partagées. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, elles méritent d'être protégées parce qu'elles sont arguments de diversité. Et c'est la raison pour laquelle l'un des grands combats de la francophonie, bon, tout ça, on a l'impression que ce sont des noms à majuscules ou des théories un peu fumeuses, bonnes pour des enceintes politiques, mais ce n'est pas tout à fait aussi simple. C'est la raison pour laquelle la francophonie, en tant qu'entité politique, a défendu, par exemple, auprès de l'UNESCO, voici 6 ans, une déclaration sur la diversité, au nom de laquelle chaque pays avait le droit de préserver sa diversité culturelle. Alors encore une fois, ça a l'air de rien, on dit oui, bon, et dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que juridiquement, un pays qui se trouverait envahi du jour au lendemain de multiplex de cinéma ne diffusant que des films en anglais pourrait s'opposer devant les Nations Unies et pour défendre sa diversité culturelle. Voilà, donc de ce point de vue-là, la francophonie n'est pas intéressante, uniquement parce qu'elle est l'une des voies de la diversité. Mais défendre le français comme une langue meilleure que d'autres, moi je l'aime beaucoup, je le pratique, mais je ne le ferai pas. Ouais.
Non, je posais plus ça en termes de, justement, de partage, de faire connaître que d'aller imposer, bien évidemment.
Oui, oui. Bah, Senghor disait que la francophonie, c'est l'ensemble des peuples ayant le français en partage. Donc le mot était présent dès la fondation institutionnelle de ce mouvement. Et c'est vrai que ce mot de partage est très juste. Il disait aussi qu'ils avaient trouvé le français dans les décombres de l'Empire. Et c'est aussi une image que j'aime bien, c'est-à-dire, voilà, il y a une histoire, il y a une histoire douloureuse, il y a eu décolonisé des colons, mais lorsque l'Empire français, en l'occurrence, s'est démembré, bien dans les décombres, on a trouvé des trésors, et parmi eux, il y avait le français. Il n'y avait pas que des larmes et du sang, il y a aussi eu un héritage qui s'est perpétué dans des œuvres jusqu'à nous.
Et au niveau des moments des croisades, par contre, là, il y avait des larmes et du sang aussi, et il y avait des luttes, des incompréhensions entre cultures. Ça se transmet à l'intérieur de votre œuvre.
Oui. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard si on peut plus parler de Ben Laden maintenant. Enfin, bon, mettons Al-Qaïda appelle à lutter contre les croisés. On reste nous en Occident et les chrétiens, nous restons les envahisseurs. Mais c'est vrai que l'époque des croisades est aussi qui s'étale, mettons, sur à peu près 200 ans. C'est une période de guerre, de violence, de fureur, de barbarie, mais enfin, elle est marquée également par des échanges de toutes sortes, hein. Il y a des culturels, économiques, gastronomiques, militaires. On a trouvé du bon dans ce périple, si j'ose dire. Mais je ne veux pas défendre du tout les croisades.
Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette heure. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez, vous, des questions à poser à nos auteurs, si vous avez des envies, des souhaits, parler du passé, du présent, de voyage, des voyageurs ou des livres, je vous invite à prendre la parole. On vous a endormi complètement, alors. Tout a été dit. Il n'y a plus rien à dire.
Non. Moi, je veux bien parler d'un voyageur, si ça vous intéresse, qui a été inventé par Lovecraft. Alors, Lovecraft, pour le situer rapidement, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de la littérature fantastique américaine du XXe siècle. Lovecraft est très connu pour être l'inventeur de ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Ce sont des contes fantastiques d'horreur. Mais il a également, à côté de ces contes, un cycle qui est plus proche de la fantasy, à l'intérieur duquel on a un personnage qui s'appelle Randolph Carter, qui est un éminent voyageur. Et alors, lui, il voyage dans des endroits très, très particuliers. Il voyage dans les rêves. Il est toujours en quête de beauté ou en quête d'une merveilleuse cité du soleil couchant qu'il n'arrive pas exactement à situer ni à identifier d'ailleurs, et dont certaines divinités le chassent. Il la voit en rêve, il la contemple du haut d'un parapet, et quand il veut descendre les marches pour atteindre cette cité, des dieux le font se réveiller. Et donc il décide de rêver un immense voyage qui le conduirait vers, en rêve, l'endroit où les dieux habitent, qui est un palais au sommet d'une montagne appelée Kadath, de manière à aller plaider sa cause auprès des dieux pour leur demander de le laisser retrouver cette cité. C'est un voyage que je trouve vraiment extraordinaire. C'est un voyage où rêves et cauchemars sont présents, mais c'est une véritable quête de beauté. Et c'est moi, ça fait partie des plus belles pages que j'ai lues de la littérature fantastique.
Oui, j'ajouterais volontiers, parce que voyage et rêve se sont souvent mariés, mais on peut avoir le sentiment trompeur, à mon avis, qu'aujourd'hui, il y a une dissociation. Et les premiers à avoir ressenti un certain désenchantement du monde, thème qui a fait Flores dans, on va dire, le demi-siècle qui vient de s'écouler, à savoir qu'aujourd'hui, on voyage trop vite, on voyage assez mal, on voyage en touriste, et les gens qui nous accueillent nous voient aussi comme des touristes, enfin tout ce qu'on a pu entendre comme lieu commun. Le premier à avoir perçu cette sorte de désenchantement, je crois que c'est Pierre Loti, qui est un Julien Viau de son vrai nom, auquel j'ai consacré une petite biographie il y a quelques temps, qui est un voyageur né en 1850, mort en 1922, qui a la particularité d'être à la fois un voyageur de carrière, on va dire un vagabond salarié, c'est le surnom qu'il a reçu, puisqu'il a été pendant 42 ans officier dans la marine. Il aurait bien aimé faire une vraie carrière d'amiral, mais malheureusement, il était très court de taille, il mesurait 1m54, donc il portait des talonnettes sur les bateaux, ce qu'il faisait beaucoup moquer des marins. Et puis surtout, il avait une petite voix, paraît-il, une petite voix de perroquet ou de crécelle. Alors, c'était difficile de se faire obéir au-delà d'un certain grade. Donc, il n'a jamais pu faire une grande carrière, ce qu'il a regretté, parce que son frère, lui, en revanche, a pu devenir un marin émérite. En revanche, il a fait voyager beaucoup de gens de son époque, à une époque où, je le rappelle, la photographie n'existait que depuis un demi-siècle, mais n'était pas réellement popularisée. Donc, il y avait encore beaucoup de gravures. Il a écrit quantité de romans et de récits, et d'abord d'articles de journaux sur tous les pays où il faisait relâche, c'est-à-dire très souvent il s'arrêtait pour 6 mois ou davantage dans différents endroits du monde, au Japon, à Tahiti, et dans tous ces pays-là il faisait 2 choses. La première chose, c'est qu'il se mariait, puisque c'était un grand séducteur, donc on peut dire vraiment qu'il a une femme dans chaque port, et davantage qu'une femme, une épouse dans chaque port. Et ensuite, il écrivait un roman sur sa femme, pour simplifier un petit peu. Et des romans dont certains sont passés à la postérité, comme Asiade, qu'il a écrit à Istanbul et autres. Et donc, Pierre Loti écrivait que la Terre sera ennuyeuse lorsqu'on ne pourra plus voyager et qu'elle ne changera plus. Et il avait perçu le premier, parce que c'est aussi un homme de cette génération qui a quitté la navire à voile dans laquelle il a appris à naviguer, pour les navires à vapeur. Et il a trouvé que ces grosses machines dont on alourdissait les vaisseaux, qui faisaient beaucoup de bruit, qui vous portaient beaucoup trop vite, parfois contre courant, parfois contre les vents, bref, contre la nature, vers une destination, enlevaient beaucoup de la magie du voyage. Donc il a eu une jeunesse comme ça, où il a vécu une sorte de voyage de rêve dans la lignée des grands explorateurs, sur des navires à voile, sur les derniers navires à voile, et ensuite une maturité et surtout un âge mûr, une vieillesse qui ont été très douloureuses, parce qu'il a vu les machines se répandre partout, et surtout il a connu la Première Guerre mondiale. C'est extraordinaire. J'ai des accessoiristes de grand talent. Lors de la Première Guerre mondiale, il voulait absolument prendre part au combat. Il avait un grade très important et des belles galonnettes, mais qui étaient surtout de fantaisie. Et il n'a jamais pu réintégrer l'armée au poste qu'il convoitait. On lui donnait toujours des postes. Donc il a une fin très douloureuse. Mais c'est vraiment l'homme de la nostalgie du voyage et de la nostalgie d'un monde perdu qui était encore riche d'aventures, riche de découvertes.
Moi, je veux bien dire encore un truc. Cela dit, c'est à vous de m'interrompre parce que je peux parler pendant des heures. Juste pour dire une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que il n'est pas nécessaire de sortir de sa chambre pour voyager. On peut très bien voyager aussi avec les livres. Ce qui compte toujours, c'est d'accéder, je crois, au point de vue de l'autre. Les livres, à mon sens, rejoignent là le voyage. C'est que l'un et l'autre le rendent l'homme libre. J'ai bien dit les livres, j'ai pas dit les livres. Oui, les livres rendent l'homme libre. Je crois que c'est absolument indispensable. Alors on peut voyager soit à pied et être libre grâce à ça, mais en lisant aussi.
Bien, c'est un très beau mot pour la fin de cette histoire. Donc je vous propose, voilà, très belle conclusion. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je remercie nos interlocuteurs d'être venus et d'avoir brillamment parlé de voyage.